Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Hubert, je suis un alcoolique. Puis aujourd'hui, je suis content de le savoir parce que ça m'a permis de connaître un mode de vie qui s'avère être de mieux en mieux de jour en jour. Puis tout ça grâce à vous autres parce que moi, j'ai essayé pour longtemps par moi-même, ça n'a jamais marché. Puis depuis que je suis avec vous autres, bien, les derniers 30 ans, ça fonctionne à 100 %. Je vous remercie d'être là. Puis lâchez-moi pas, j'ai tellement besoin de vous autres. À soir, on va faire une petite révision sur l'étape 6 et 7 qu'on a faites la semaine passée. Moi, ce que je fais, je prends des notes, là, puis quand je répète juste un peu ce que ces notes-là disent pour pas prendre trop de temps. Puis à soir, on va être à la page 86 dans le gros livre, puis à la page 89 dans le 12 par 12. On va faire beaucoup de 12 par 12 à soir, surtout en 8e étape, parce que dans le gros livre, il y a seulement qu'un paragraphe. Fait qu'on va aller à la révision. Peut-être qu'on fait juste un petit moment de silence avant pour se réitérer, là, puis avoir une pensée spéciale pour les personnes qui devraient être ici, puis qui ne veulent pas. Puis une autre pensée spéciale pour les personnes qui voudraient être ici, puis qui ne peuvent pas. Fait qu'on prend un petit moment de silence pour ça. Je vous remercie. Merci beaucoup d'être là encore une fois. La sixième étape. Le but de la sixième étape, ça, c'est de recueillir puis inscrire sur une feuille tous les défauts qu'on a reconnus dans notre quatrième et cinquième étape. Ces défauts-là sont basés sur l'égoïsme, la malhonnêteté, les peurs et puis le manque de considération qu'on a eu à travers de notre vie. Puis si vous avez de la difficulté à trouver vos défauts, bien, les gens qui vous connaissent, ils peuvent vous aider beaucoup à trouver ces défauts-là. Les gens que vous côtoyez régulièrement. Puis, si vous êtes gêné, mais des fois, c'est bon mieux d'être gêné puis de demander que de manquer. Parce que moi, quand j'arrive à haut, là, je pensais que j'étais parfait. Hein? Puis, vous avez été très patient pour m'aider à découvrir tous mes défauts de caractère. Puis, quand j'ai fait ma cinquième étape, je pense que j'en avais un où tu sens des défauts de caractère que j'avais découvert, moi qui se pensais parfait en arrivant. Fait qu'il y a toutes sortes de petits défauts qu'il faut essayer de découvrir, essayer de mettre dans notre liste. Parce que la sixième étape, tout ce qu'on a à faire, c'est faire cette liste-là. Puis si on n'est pas prêt à ce que Dieu nous enlève tous ces défauts-là, bien, on va demander qu'il nous donne la volonté de vouloir s'en défaire. C'est ça que c'est le but de la sixième étape, faire la liste puis vouloir s'en défaire. Puis c'est sûr, dans le 12 par 12, à page 73, là, il nous en parle beaucoup de nos petits défauts de caractère. Puis, il y en a qu'on pense c'est quasiment des qualités, là. Puis il nous explique pourquoi ce n'est pas des qualités, parce que ça fait du mal aux gens qui nous entourent, puis souvent à nous autres mêmes. Puis il nous aide à comprendre c'est quoi un défaut. À page 75 du gros livre, il nous le dit. Je pense que je vais le relire, ce petit bout-là, là, parce que c'est quoi un défaut? Bien, ils nous disent, comme nous naissons presque tous avec une grande abondance de penchants naturels, il n'est pas étonnant que nous laissions souvent outrepasser largement le rôle qui est destiné. Les penchants naturels, c'est nos instincts. Ça. On a trois instincts de base que Dieu nous a donnés. On a l'instinct social, qu'on veut se créer, qu'on veut être ensemble. On a l'instinct de sécurité qui comprend notre matériel et puis notre spirituel, puis on a l'instinct sexuel aussi. Ces trois instincts-là, ils nous ont été donnés gratuitement dans la vie. Mais souvent, on dépasse ce que c'est que les besoins sont, là, on fait du mal aux autres. Puis, la même chose quand les autres dépassent leurs instincts naturels, bien, ils nous font du mal. Mais là, on regarde nos défauts, nous autres, c'est quoi? C'est lorsque nous emportons aveuglément ou que nous décidons d'en exiger plus de satisfaction et de plaisir qui est possible ou nécessaire, nous nous éloignons alors du niveau de perfection auquel Dieu nous destine sur Terre. C'est ça la mesure de nos défauts, c'est quand on empiète sur les instincts naturels des autres. Fait qu'il faut se limiter à nous autres. Puis ça, moi, je ne le savais même pas, j'avais ça. Je ne le savais pas, je me aux autres. Fait que la sixième étape, ça a été une révélation pour trouver mes défauts. Je vais en faire une liste complète, puis ensuite demander à Dieu qu'il me donne la volonté de vouloir m'en débarrasser. Puis si nous accrochons encore quelque chose, ça, dans le gros livre, nous dit ça, si je m'accroche encore à quelque chose, on ne veut pas me départir, bien, demander à Dieu qui m'aide à donner la volonté de vouloir m'en départir de ces défauts-là. Puis ça, c'est ça la prière de la sixième étape, c'est qu'on demande à Dieu de nous aider à vouloir se débarrasser de ces défauts-là. Après ça, on va passer à la septième étape. La septième étape, ils nous disent, nous commençons par lire au 12 par 12, à page 68, qui vont donner la définition du mot humilité. L'humilité, dans le dictionnaire, c'est peut-être un peu différent de ce que Léa nous enseigne. L'humilité, ils nous disent, à page 68, là, pour ceux qui ont fait du progrès chez Léa, c'est les membres qui ont commencé à faire les étapes, là. L'humilité consiste à reconnaître ce que je suis, ce que je suis devenu, et à vouloir me débarrasser de mes défauts pour pouvoir devenir ce que je suis supposé d'être. Tu sais, j'entends ça souvent des meetings. Ah, moi, je suis fait de même. Ah, moi, je suis fait de même. C'est pas vrai. On est venu au monde parfait. On est devenu ce qu'on est devenu parce qu'on était élevé par des parents pas parfaits, puis on est à l'école pas parfaite, puis on a eu des amis pas parfaits. On est devenu imparfait sans s'en apercevoir. Parce que moi, à 43 ans, je me pensais encore parfait. J'avais 43 années en arrière de moi à aller défricher, puis je le savais pas. Fait qu'il a fallu que j'aille voir ça pour voir qui j'étais devenu, pour ensuite donner l'opportunité de devenir ce qui j'étais supposé d'être. Aujourd'hui, je le sais qui je suis. Je sais que je suis un bon gars, puis je sais aujourd'hui que si je fais du tort à quelqu'un, je peux prendre ma 10e étape et me corriger tout de suite. Je ne suis pas obligé d'attendre longtemps pour ça, comme j'ai fait les 43 ans de ma vie avant. C'est un apprentissage. L'humilité, c'est le résultat le plus marquant qui existe dans l'humilité. Le résultat le plus marquant, c'est ma changement d'attitude envers Dieu puis envers tout le monde qui m'entoure. Si je reconnais tous mes défauts puis je demande à Dieu qu'il me les enlève, bien, ça va changer l'attitude que j'ai envers Dieu, c'est sûr, puis l'attitude que j'ai envers la plupart de vous autres. Okay? Nous avons compris que pour devenir humble, il n'était pas nécessaire d'être forcé ni de souffrir. Je ne suis pas obligé d'avoir du mal. Quand j'ai du mal, je souffre, puis je ne suis pas obligé d'avoir du mal de changer mes défauts. Je peux les reconnaître, aller demander à Dieu qu'il me les enlève. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de souffrir. On peut s'apercevoir de nos défauts, puis arrêter de souffrir, puis faire souffrir les autres. Puis on va demander à notre être suprême qu'il nous aide par la prière de la 7e étape dans le gros livre. Et à page 85, là, ça commence avec mon Créateur. Je suis maintenant disposé à ce que vous preniez tout ce que je suis, bon ou mauvais. Je vais tout ordonner mon être imparfait, je redonne ça à Dieu, pour que lui dispose de moi selon ce qu'il prend, selon ce qu'il pense qui est correct. Je veux tout ce que je suis, bon ou mauvais. Je vous demande d'ôter de moi chacun de mes défauts qui m'empêchent de vous être utile à vous et à mes semblables. Accordez-moi la force de faire votre volonté à partir de maintenant. Ainsi soit-il. Une des plus belles prières qui existent, la prière de la 7e étape, que je vais demander à Dieu qu'il me débarrasse de mes défauts, puis qu'il m'aide à devenir la personne que je suis supposé d'être. Dans page 86, dans le bas de la page 86 du gros livre, là, ils nous disent, là, notre but véritable, c'est de nous préparer à nous mettre en état de servir. Les étapes vont me préparer à mettre en état de servir. Qui je vais aller servir le plus possible? Dieu et les personnes qui m'entourent. C'est ça que les étapes vont faire. Quand j'arrive à haut, je n'ai pas de service. Aujourd'hui, je peux servir à différents niveaux. Merci à mon Dieu. Merci à tous vous autres qui ont participé dans ma vie pour m'aider à me reconnaître et à faire ce que j'étais supposé faire. Et de là, on va aller à la 8e étape. La 8e étape qui nous dit, nous avons dressé la liste de toutes les personnes que nous avons lésées et nous avons consenti à réparer nos torts envers chacune d'elles. Je vais aller faire cette liste-là. Si j'ai fait ma 4e étape, selon les guides qu'on vous a dit, d'après le gros livre des alcooliques anonymes, bien, on a écrit le nom de chaque personne à qui qu'on a fait du tort. On a écrit le nom de la personne, dans la deuxième partie de la 4e étape, le nom de la personne, dans le haut, à gauche, on a écrit ce que c'est qu'on a fait de mal à ces gens-là. Puis à droite, on a déjà écrit qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement, comment j'aurais dû agir dans une situation semblable pour ne pas causer le tort que j'ai fait. Mais là, on a déjà toutes ces pages-là, peut-être j'ai 100 pages que j'ai de différentes personnes. Je vais reprendre ces pages-là, puis dans le bas de la page, je vais aller écrire comment je devrais faire cette amende honorable-là, comment je vais procéder, qu'est-ce que je vais faire pour accomplir ça. Puis ça se fait en consultation avec mon être suprême, c'est sûr, avec mon conseiller spirituel, qui est mon parrain, ma marraine. Je vais aller vérifier comment. Mon parrain me dit, je ne veux jamais te le faire une 9e étape avant de m'en parler. Fait qu'on va aller discuter de ça avec le parrain, la marraine, le guide spirituel, pour être certain qu'on est dans la bonne direction, qu'on fait la bonne chose. Dans la page 89, dans le 12-12, on ne lira pas tout, mais on va lire une partie. Nous nous demandons comment nous pourrons, avec notre nouvelle connaissance de nous-mêmes, construire les meilleures relations possibles avec chacune des personnes que nous connaissons. Je vais aller réviser ma vie, puis je vais aller voir comment, avec tout ce que j'ai appris sur moi-même depuis l'étape 4, 5, 6, 7, comment tout ce que j'ai appris de moi, je vais aller développer des nouvelles relations. Je vais être capable de me présenter comme il faut à ces gens-là, ou me représenter. Tu sais, mon parrain me disait, comment tu fais pour te présenter, Hubert? Tu ne sais même pas qui c'est que t'es. Et moi, je pensais que je savais qui j'étais, mais je me prenais pour un autre, je ne le savais pas. Fait que je présente à l'autre tout le temps, puis Hubert, je ne l'ai jamais présenté à personne tant que je n'ai pas eu fait la quatrième à la septième étape. Fait qu'on, là, j'ai connu un peu plus de Hubert, puis je peux me représenter un peu plus. Il nous dit que c'est un très gros contrat. C'est une tâche à laquelle nous pourrions devenir plus habiles, mais que nous n'achèverons jamais réellement. Jamais je vais pouvoir me connaître à 100%, jamais je vais pouvoir être parfait. Mais au moins, si j'ai une tendance à aller dans cette direction-là, avant ça, je m'en allais dans la direction contraire, puis je n'étais même pas au courant. C'était comme si j'étais sur le one-way à l'envers, puis je me demandais comment ça qu'il n'y avait pas plus de trafic que ça. Apprendre à vivre dans la plus grande paix, en communion et en fraternité avec tout homme et toute femme de toutes conditions, c'est une aventure émouvante et fascinante. C'est ça que la vie nous emmène, à rencontrer toutes sortes de gens, puis à aider ces gens-là, puis on s'aide en même temps qu'eux autres ici nous aident. Puis là, ils nous disent, bien, jusqu'à un certain point, on a déjà fait de son inventaire moral, mais le moment est maintenant venu de redoubler d'efforts pour découvrir toutes les personnes qu'on a blessées et comment on l'a fait. Ils nous disent à la huitième étape, là, on va aller redoubler ces efforts-là pour être certain qu'on n'a pas manqué personne, qu'on n'a pas oublié personne du mal, ceux qu'on a fait du mal. Mais si on y met de la bonne volonté, les précieux avantages de cet exercice se révéleront si rapidement que le malaise sera apaisé au fur et à mesure de la disparition successive de ces obstacles. Les obstacles, mais c'est comme mon orgueil qui m'empêche d'aller voir ça, tous ces défauts de caractère qui m'empêchent d'aller réellement voir ce que j'ai fait de mal. Puis il nous dit, ces obstacles, en 90-12-12, les obstacles n'en sont pourtant pas moins réels. Le premier et le plus difficile a trait au pardon. Tant qu'on se penche sur une relation embrouillée ou rompue, les émotions passent à la défensive. Aussitôt que je pense à ça, le mal que j'ai fait, mais là, ma tête, elle me dit, mais oui, mais lui, tout, il t'a fait ça. Ou elle aussi, il t'a fait des choses de même. Mais c'est pas ça, l'ultime étape. Ça les retracer ce que moi, j'ai fait de mal, pas qu'est-ce que les autres m'ont fait de mal. Rappelons-nous que les alcooliques ne sont pas les seuls à être victimes d'émotions déréglées. Il n'y a pas juste les alcooliques qui ont des défauts. T'sais, on a tous des défauts. Nous autres, par la grâce de Dieu, avec ces 12 étapes-là, on a pu reconnaître nos défauts, on a pu se changer, se modifier assez pour devenir la personne qu'on devrait être. Pourquoi qu'on est sur la terre? Pour rendre service, puis il faut se mettre en état d'être capable de rendre service. Puis nous disent à ces gens-là, dans bien des cas, il s'agit des gens qui souffrent et que nous avons rendus plus malheureux. Ils étaient déjà souffrants, on a abusé d'eux autres d'une façon ou de l'autre, puis ils sont devenus encore pires. Mais nous sommes maintenant prêts à demander le pardon pour nous-mêmes. Pourquoi pas commencer à le pardonner une fois pour toutes? Il faut pardonner à ces gens-là qui nous ont fait du mal. C'est la première étape. C'est ça qu'ils nous disent. On va aller prier pour eux autres à la page 615-616 pour lui pardonner. Puis quand je vais prier pour eux autres, bien, je vais demander à Dieu qu'il m'aide à demander pardon aux autres pour aller voir ce que j'ai fait. Ils nous disent à la page 91, nous avons eu un choc sévère en constatant que nous préparons à admettre en face à face notre conduite méprisante aux gens que nous avions offensés. C'est ça la huitième étape. Je vais aller réaliser que oui, il va falloir que j'aille le faire. Il va falloir que j'aille le faire d'un à un, mais ils vont me donner toutes sortes de conseils, surtout en neuvième étape, là, comment procéder pour être certain que je le fais du mieux possible, cette chose-là, cette demande-là. Il y a aussi des cas où nous avons causé du tort à des gens qui, heureusement, n'en savent encore rien. Pourquoi pas simplement enterrer le passé? Pourquoi réveiller le chat qui dort? Ce sont là des exemples de détours qui nous inspiraient la crainte, que nous inspiraient la crainte et l'orgueil. Les peurs pour l'orgueil m'empêchent d'aller voir la vérité pour nous empêcher de faire la liste complète de toutes les personnes que nous avons lésées, d'aller faire cette recherche-là, puis arrêter de dire, bien, oui, peut-être j'ai parlé contre vous autres, vous n'étiez pas là, puis je ne vous l'ai pas dit. Aujourd'hui, je vais aller vous voir, puis je vais aller vous le dire. Tu sais, je vais dire... Je m'excuse, P.O., je m'excuse d'avoir parlé contre toi quand tu n'étais pas là. Puis aujourd'hui, je ne fais plus ça. C'est ça qui est le but, c'est que mon parrain me disait tout le temps, tu ne peux pas faire d'amende honorable tant que tu n'es pas sûr que tu ne referas pas la même chose dans ces circonstances semblables. Fait que c'est bien important, quand on se prépare à faire une amende honorable, bien qu'on le sait, en dedans de nous autres, que oui, dans une situation semblable, ce n'est pas ça que je vais faire. Ils nous disent dans le haut de la page 92, là, qu'avons-nous fait donc de si mal, hein? Puis j'entends ça souvent, le monde a dit, moi, j'ai pratiquement rien fait de mal. Je pense à de même quand j'ai arrivé, moi aussi. Il nous dit, qu'avons-nous fait de si mal? Certainement pas plus que des pécadilles qui seraient faciles de réparer par quelques excuses polies. Le suivant, il nous dit, on reconnaît bien là l'attitude de celui qui veut délibérément oublier. Seul un examen honnête et approfondi de nos intentions et de nos actes peut la corriger. Il faut que j'aille revoir ça avec toute l'honnêteté que je peux, puis demander à mon aide suprême, puis à mon parrain, ma marraine, celui qui me guide, d'être capable d'aller sortir le plus possible de tous ces gens-là. Ils nous disent des conflits émotifs néfastes et très profonds, parfois tout à fait oubliés, persistent cependant dans un niveau de notre subconscient. C'est pour ça que je ne peux pas devenir joyeux, heureux et libre tant que je n'ai pas fait mes étapes, parce que dans le fond de ma tête, il y a de quoi qui est accroché là, puis je ne le sais même pas. Puis ça m'empêche d'être joyeux, heureux et libre. Fait que je vais aller tout décrocher ça, aller tout nettoyer ça, aller ressourcer ça, pour que je puisse être joyeux, heureux et libre, même si la vie n'est pas toujours agréable avec moi. Bien qu'il soit extrêmement important de réparer nos torts, il demeure tout aussi nécessaire dans l'examen de nos relations personnelles de dégager dans les moindres détails tout renseignement sur notre façon d'être ou nos difficultés les plus profondes, puisque la mauvaise qualité de nos relations avec les autres a presque toujours été la cause immédiate de nos malheurs. C'est certain, on se chicane avec du monde proche de nous autres ou du monde loin de nous autres, on ne file pas bien. Après ça, on a de la misère à les voir, on a de la misère à les rencontrer. Puis ils nous disent une réflexion calme et attentive sur nos relations peut nous aider à nous connaître plus en profondeur. Chaque personne va falloir le voir en détail. Dans la page 93, bien là, ils vont nous définir c'est quoi léser. C'est quoi léser des personnes? On parle ça que j'ai lésé du monde, j'ai fait du mal au monde, mais comment ça se fait? Il y a un paragraphe dans l'eau de la page 93 qui nous explique ça. Nous pourrions ensuite nous demander ce que nous entendons par le terme léser d'autres personnes. Comment, en fin de compte, peut-on léser une personne? Pour définir ce mot d'une façon concrète, nous pourrions dire que c'est le résultat d'un conflit d'instinct qui cause chez les autres des dommages physiques, des dommages mentaux, des dommages émotifs ou des dommages spirituels. Un conflit d'instinct, comme l'expliquait tout à l'heure, nos trois instincts de base, social, sécurité et sexuel, ces trois instincts-là, on a dépassé leurs limites, on a empiété sur l'instinct des autres. C'est ça qui cause des dommages physiques, mentaux, émotionnels ou spirituels. Fait qu'il me donne quatre catégories que je vais aller passer dans ma vie pour voir si j'ai-tu blessé du monde physiquement dans ma vie, j'ai-tu blessé du monde mentalement, j'ai-tu blessé du monde émotivement ou spirituellement. Puis il faut que j'aille voir, parce que moi, je sais que quand j'ai vu ça, j'ai lu ça, je suis retourné voir dans ma vie, puis oui, j'ai blessé du monde dans ces quatre catégorie-là. Et là, il nous explique pourquoi avec une mauvaise humeur, puis tout ce qu'on fait, c'est ça. Allez nous expliquer qu'est-ce qui fait que... Les 8 heures, bon, on va tout de même faire un petit bout. Ils vont nous dire, dans page 93, là, ils nous disent, par notre constance mauvaise humeur, nous incitons les autres à la colère. Tu sais, les mondes, ils finissent par cette année, ils ne nous voient pas correct. Par des mensonges et nos tricheries, nous ôtons aux autres non seulement les biens matériels, mais aussi la sécurité émotive ou leur paix d'esprit. C'est comme si nous les invitons au mépris et à la vengeance. Par notre conduite sexuelle égoïste, nous pouvons susciter de la jalousie, de la détresse, un puissant désir de vengeance. T'sais, moi, je n'ai jamais compris ça. Je n'avais jamais pensé à ça. Moi, je suis sur le point de vue sexuel, mais je pouvais demander à mon conjoint ou ma conjointe si, comment est-ce qu'il aimait ça, puis s'il aimait ça ou s'il n'aimait pas ça. Moi, je l'ai toujours fait, puis je pensais que parce que moi, j'aimais bien ça, que c'était la même chose pour eux autres. Mais jamais j'ai été conscientisé assez pour demander ça au pouvoir, ça. Mon égoïsme était tellement fort que je ne pouvais pas penser que... Je pensais que j'étais parfait, puis les autres, tout était parfait. Mais c'était loin de l'être. Les grands écarts de conduite sont bien loin d'épuiser le répertoire des torts infligés aux autres. Ce n'est pas toujours des grands écarts. Pensons un peu à certains autres plus subtils qui peuvent parfois produire tout autant de dégâts. Supposons qu'au foyer, on se montre grippe-sous, irresponsable, sans cœur et distant. Supposons que nous sommes irritables, grincheux, impatients, puis sans humour. Supposons que nous accordons toute notre attention à une préférée de la famille en négligeant les autres. Qu'arrive-t-il quand nous agissons en dictateur au foyer, en imposant nos règles? Qu'arrive-t-il quand nous sombrons dans la dépression, quand nous sommes envahis par l'apitoiement? Pauvre petit Hubert, regarde ce qui arrive encore. Pauvre petit Hubert. Et nous accomplons notre entourage. On parle rien que de nos affaires qui nous arrivent à nous autres. Jamais qu'on va demander aux autres comment est-ce qu'ils vont et comment ça fait. Donc, je parle juste de mes... Pauvre petit Hubert, regarde ce qui arrive encore. On pourrait prolonger la liste infiniment à ça, mais on va aller voir qu'est-ce qui. Puis là, un peu plus bas, nous dit, reculant d'année en année dans notre passé, aussi loin que notre mémoire peut nous conduire, nous finirons par dresser une longue liste de personnes qui ont été affectées d'une façon ou d'une autre. Puis peut-être qu'on ne les a pas toutes écrites dans notre quatrième étape. Puis en revisant la huitième, c'est pour compléter la quatrième étape, en réalité, qui nous demande de retourner là parce que on s'est aperçu peut-être qu'on a oublié bien les choses dans la quatrième étape. Surtout si on a fait une quatrième étape dans 2-3 semaines ou 2-3 jours, puis il y a des grosses chances qu'on a un paquet de ces choses-là qui n'ont pas été mentionnées là-dedans, qui n'ont pas été reconnues. Nous voudrons nous en venir à reconnaître nos torts tout en pardonnant le mal qui nous a été fait, imaginaire ou réel. T'sais. Peut-être que je pense que quelqu'un a parlé contre moi, puis c'est peut-être même pas vrai, mais moi, dans ma tête, je pense que c'est ça. Fait que Jacques en accordant de ça, puis c'est pas ça. Fait qu'il nous dit on va commencer à pardonner tout le monde. Pour être, avant d'aller demander le pardon à quelqu'un, bien, on va pardonner aux autres pour espérer que les autres vont nous pardonner. Puis de là, on va, dans le gros livre, on va lire le paragraphe à page 86 là, qui nous parle un petit peu de la huitième étape pour conclure ce qu'on vient de dire là. Ils nous disent nous devons encore demeurer dans l'action. Fait qu'on a parlé de l'action depuis la troisième étape qu'on est dans l'action. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, puis huitième, on est encore dans l'action. C'est ça qu'ils nous disent. La foi sans les œuvres est une foi morte. Hein? Juste croire, c'est passé. Nous avons la liste de toutes les personnes que nous avons lésées et envers qui nous sommes prêts à réparer nos torts. On a cette liste-là depuis la quatrième étape. Puis la huitième étape, on l'a refaite, on l'a parfaite, on l'a faite un peu mieux en tout cas. Nous avons dressé la liste au moment de notre inventaire et à cette occasion, nous avons subi un examen sévère. Maintenant, on va falloir aller vers nos semblables dans le but de réparer ces dommages-là. Nous tenons de réparer les dégâts que nous avons causés. Comment ça qu'on a causé les dégâts-là? En imposant notre volonté, puis en dirigeant nous-mêmes tout le spectacle. En troisième étape, nous en avons parlé, le spectacle, c'est notre vie. Hein? Dans le spectacle de ma vie, j'ai essayé d'être l'éclaireur, j'ai essayé d'être le moniteur, j'ai essayé de tout faire, pour finalement m'apercevoir que je n'étais rien qu'un petit acteur dans la pièce de théâtre qui est ma vie, puis je ne suis même pas un bon acteur. Fait que, il va falloir que je laisse Dieu mener ma vie. Quand j'ai mené ma vie moi-même, mais ça a fait du mal à bien du monde. Puis si on n'a pas la force de le faire encore, bien, on va aller prier jusqu'à ce que cette force-là nous soit donnée. La force d'aller voir nos torts à les écrire. Okay? Pour être prêt à pouvoir aller voir les personnes à qui on a demandé. Puis on dit, souvenez-vous qu'il était entendu au début que nous reculions devant rien pour vaincre l'alcool. C'est qu'on est prêt à tout faire pour ne pas retourner boire, pour ne pas retourner dans notre obsession la plus grave qu'on a ou les plusieurs obsessions qu'on a, bien, il va falloir aller faire ça. On va demander à Dieu qu'il nous donne la force de pouvoir aller faire ça. La neuvième étape, on va retourner dans le 12 par 12 un petit peu, on va lire le tout. Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes dans la mesure du possible, sauf lorsqu'en se faisant, nous risquions de nuire ou de nuire à d'autres. Il dit qu'on va aller faire ces réparations-là, puis il nous manque des exceptions. Et ces exceptions-là, il va falloir que j'en discute avec mon parrain, ma moraine ou mon guide spirituel, parce que de moi-même, il y a bien des exceptions. Puis quand je lis ce qui est écrit là, puis j'en parle avec mon parrain, ma moraine, bien, il y a pas mal moins d'exceptions. Il n'y a pas grand-chose que je ne peux pas aller faire des amendes honorables. Puis ils nous disent comment qu'on va se préparer à faire ça, puis ça prend un bon jugement, le souci de trouver le moment propice, du courage, puis de la prudence. C'est les quatre choses requises pour aborder la neuvième étape. Trouver le bon temps, puis si je n'ai pas le bon temps, il va falloir que je le crée, créer le moment propice, demander d'avoir du courage à notre être suprême, parce que c'est pas facile d'aller voir les autres à pleine face, puis de la prudence, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. C'est pour ça que c'est important que j'aille reviser ma huitième étape avec mon parrain pour être certain de ce que je vais dire, que ça n'enflammera pas plus de problèmes. Les dispositions requises pour absorber la neuvième étape. Ils nous disent pas ça mot à mot, mais en tout cas, ça veut dire ça. Mon parrain m'a fait faire trois listes. La liste de personnes à qui je fais du tort. Il a fait une liste des personnes que je t'ai prêt à faire des amendes honorables tout de suite. La deuxième, la liste des personnes qui m'ont fait autant de tort que je les en ai faites. Puis je ne suis pas prêt à te faire des amendes honorables tout de suite. Puis la troisième liste, c'est de ceux que je ne veux jamais lui faire des amendes honorables. Je pense qu'ils m'en ont trop faites. Puis je ne suis pas prêt à lui faire des amendes honorables. Puis là, mon parrain, il me dit, bon, on va aller commencer avec la personne les plus faciles. Puis on va prier pour ceux qui sont en deuxième pile, avec la page 115-116, pour qu'ils deviennent plus faciles à faire. En commençant avec les plus faciles, et ceux qu'on est plus proches d'eux autres, bien, ça va nous donner le goût de faire les autres, parce qu'on va voir, ils nous disent dans le gros livre que 9 fois sur 10, ça fonctionne. 9 fois sur 10, l'amende est reçue comme il faut. Et puis ça veut dire qu'une fois sur 10, ça ne marche pas aussi bien. Puis ces cas-là, bien, pour ça, il faut en discuter avec le parrain, la moraine ou le guide spirituel avant d'aller les voir, pour être certain que s'ils nous mettent dehors ou s'ils ne veulent pas nous voir, si j'appelle 3 fois et ils ne veulent pas rien savoir de moi, mais même si j'appelle 10 fois, ça va juste les étriver un peu plus. Fait que je vais parler au parrain, à moraine, au guide spirituel, pour savoir comment je vais faire pour faire cette amende honorable-là. Peut-être que je ne pourrais pas faire direct, peut-être que je vais le faire d'une autre façon. Et les parrains, les moraines, les guides spirituels, ils ont toutes sortes de façons de nous aider à aller se débarrasser de ces moments-là. Ils disent, mais Mais si nous sommes bien préparés, ces régressions ne sauraient nous détourner de nos fermes intentions. Ma tête avant de me dire, oh non, Hubert, lui, il ne voudra pas le savoir de toi, il va te mettre dehors. Tout ça. Mais c'est pas ça. Je me suis préparé, je suis prêt. Puis, ils nous disent aussi dans la page 97, dans le bas de la page 97 du 12-12, nous nous fabriquons souvent des excuses plausibles pour écarter complètement cette perspective ou plus simplement nous remettons plus tard sous prétexte que le bon moment n'est pas encore arrivé. On a bien de la misère à déterminer le bon moment. C'est pour ça que je dis des fois, il faut que je l'occasionne le bon moment. Je vais appeler à quelqu'un, je vais dire, je peux-tu te rencontrer, j'ai quelque chose à discuter avec toi ou il faut absolument que je te rencontre. Puis on va essayer de trouver une place qui est commune à tout le monde pour qu'on puisse aller les voir de face à face. À page 98 du gros livre, du 12-12, ils nous disent « Dès que nous acquérons un peu d'assurance dans notre nouveau mode de vie et que par notre conduite et notre exemple, nous avons un peu convaincu notre entourage du changement positif qui s'opère en nous, le moment est généralement venu d'aborder en toute franchise les gens qui ont été plus gravement affectés. Même ceux qui ne seraient que peu ou pas conscients du tort que nous avons fait. C'est ça qu'on va, on va prendre du courage en faisant notre 8e étape pendant notre forêt. On va voir, ça va nous redonner du courage pour être capable d'aller voir ces gens-là. Ils nous disent, il est inutile de nous morfondre en regrets excessifs devant les gens que nous avons lésés. Les réparations de ce genre doivent se faire sans détour et sans mesquinerie. Je vais aller voir quelqu'un, puis moi, mon parrain me dit, tu vas aller lui dire que tu es dans un mode de vie de rétablissement. Puis qu'aujourd'hui, tu ne penses plus comme tu pensais, puis tu n'agis plus comme tu pensais, comme tu faisais. Puis que tu vas aller te dire, mais dans telle ou telle occasion, j'ai parlé contre toi, ou je t'ai blessé, ou j'ai fait, je t'ai volé, je ne sais pas c'est quoi l'occasion. Je vais aller lui dire le plus proche possible de la vérité, puis le plus direct possible. Puis dis aujourd'hui, bien, je cherche ça. Puis je vais aller lui dire, bien, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour me faire pardonner ou pour t'aider à oublier ces offenses-là? Ils nous disent qu'une seule circonstance peut justifier notre désir de ne pas dévoiler entièrement le tort que nous avons causé. Elle se présentera occasionnellement lorsqu'une révélation complète pourra nuire à la personne à qui nous voulons justement présenter nos excuses ou encore fait tort à d'autres personnes, ce qui est tout aussi important. Je ne peux pas mélanger personne avec ça. Si j'ai fait du mal avec quelqu'un, bien, si quelqu'un sait que j'étais avec, bien, il va falloir que j'en parle avec mon parrain, ma marraine, mon guide spirituel avant d'aller faire ces amendes-là. Puis il y a des cas, peut-être il va falloir que j'aille voir un avocat ou un comptable avant pour savoir comment présenter ça, pour être certain que je ne remplis pas les choses puis que je le fais de la meilleure façon possible. Ils nous disent, mais mettons qu'on a travaillé pour une compagnie, j'avais un compte de dépenses, puis j'ai abusé de ça, bien, je vais aller voir la personne en conséquence, puis peut-être je vais y soumettre des remèdes de l'argent ou lui demander comment est-ce qu'ils veulent arranger ça. Il dit qu'il faut être disposé à assumer toutes les conséquences de nos actes passés, et à prendre en même temps la responsabilité du bien-être des autres. Quel est le véritable esprit de la 9e étape? La 9e étape, c'est ça. Je vais aller prendre des conséquences. Je vais aller voir quelqu'un, je t'ai blessé, j'ai fait de quoi de pas correct, je t'ai volé, ou n'importe quoi que j'ai pu faire. Puis avant de partir, je vais aller, y a-tu quoi je peux faire pour t'aider à me pardonner ou ce que je peux faire? Si c'est de quoi de physique, bien souvent, c'est de quoi j'ai brisé la clôture du gars, bien, je peux le payer pour sa clôture ou l'en faire réparer. Il y a des choses qui ne sont pas physiques, il y a des choses qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont spirituels ou émotifs le plus, bien, je vais demander, as-tu quoi je peux faire pour t'aider dans cette direction-là? On va tomber dans le gros livre. On fait des bons progrès. Dans page 86, on va lire des passages jusqu'à la fin de la page 94, 95, qui nous ont les promesses qui finissent. Ils disent qu'il n'est pas nécessaire, simplement, pas indiqué d'aborder certaines personnes en insistant sur le caractère spirituel de notre visite. Tu sais, si c'est un gars de la construction que je vais le voir, le gars, il est rough and tough, mais je n'aurais pas dit que j'ai rencontré Dieu. Hein. Mais je peux lui dire que j'ai un mode de vie différent aujourd'hui. Tu sais, que je ne fais plus ce que je faisais. Ça se dit très bien, très simplement. Tu sais. Puis aujourd'hui, bien, pour me relever de ma maladie, bien, il y a des choses qu'il faut que je fasse, c'en est une de ceux-là. Je viens de dire que j'ai mal agi ou mal écouté toi. Puis c'est là qu'on a dit dans le bas de la page 86, ça fait partie de notre 9e étape, on l'a lu tout à l'heure. Notre but véritable, c'est de nous préparer à nous mettre en état de servir le plus possible Dieu et les personnes qui nous entourent. Pas juste les alcooliques, tout le monde avec qui je travaille, avec qui que je vis. Je vais aller voir l'effet des amendes honorables. Ils nous disent que notre interlocuteur ne pourra qu'être impressionné par notre désir sincère de réparer le tort que nous lui avons causé. Si j'ai jamais rencontré du monde, moi, que je devais de l'argent, puis aller lui présenter un 20$, puis lui dire je vais t'en donner un autre aussi, puis ils m'ont dit garde ton 20$, je ne veux rien savoir de toi. Ils vont te prendre le 20$, peut-être qu'ils ne sont pas contents, mais à force d'emmener des 20$, puis je lui dois des 100$ ou des 1000$, je ne sais pas. Si c'est avec une banque, je vais aller prendre d'arrangement, avec n'importe qui. Puis ils nous disent, bien, notre interlocuteur, il va être plus intéressé par notre démonstration de bonne volonté que par le récit de nos découvertes spirituelles. J'ai rencontré Dieu dans ma vie. Ça, c'est à moi. À moi, par mon être suprême. Puis la plupart des gens, je vais faire des amendes honorables, mais peut-être, ils n'ont peut-être pas besoin de savoir ça ou c'est peut-être pas bon que je parle de ça. Puis il nous dit, avec une personne qui nous est antipathique, nous devons de même prendre sur nous. Le monde qu'on n'aime pas à faire, si on lui a fait du tort, mais il faut que j'aille les voir pareil. Il est plus difficile d'aller vers un ennemi qu'à vers un ami, mais ça rapporte davantage. Tu sais, il y a des gens, moi j'ai fait des amendes honorables, puis c'est devenu mes meilleurs amis, puis c'est des gens qui ne voulaient rien savoir d'eux autres, puis qui ne voulaient rien savoir de moi. J'ai fait des amendes honorables, puis ils ont vu que ma façon d'agir, ma façon de penser a changé drastiquement. On est devenus des amis. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ça peut arriver. Nous abordons l'autre dans un esprit d'aide et de pardon et nous avouons nos inimitiés et nos rancœurs passées et exprimons nos regrets. Mais nous évitons à tout prix de critiquer cette personne ou de discuter avec elle. Si j'ai fait de quoi de répréhensible, je n'ai pas allé discuter. C'est toi qui n'as pas fait ça, tu ne m'auras pas fait. Non, c'est pas ça. C'est moi qui t'ai fait du mal. Puis j'étais pas dans un bon état d'esprit. Aujourd'hui, mon état d'esprit a changé. J'agis plus de même, je ne réagis plus comme ça. Fait que jamais qu'on va aller critiquer quelqu'un ou discuter. Pourquoi je t'ai fait ça? Je t'ai fait ça parce que je n'étais pas correct. Puis aujourd'hui, bien, ma façon d'agir a changé. Fait que c'est plus facile. Puis là, il nous dit 9 fois sur 10, l'idée attendue se produit. 9 fois sur 10, on a une bonne réception de ça. Puis comme je dis, il y en a qui sont devenus des amis. Il ne faut cependant pas nous en faire si quelqu'un nous chasse de son bureau. Nous allons démontrer notre bonne volonté, nous allons faire ce qu'il fallait. C'est fini. Mais pour ça, il faut que je sois préparé adéquatement. Si je ne suis pas préparé adéquatement, je vais aller rencontrer le monde, puis je vais faire plus de tort que de mal. Puis en plus, il va falloir que je retourne pour tout, en plus des anciennes choses. Il va falloir que je retourne pour les nouvelles. C'est pour ça que c'est tellement important d'aller faire, avant de faire un honorable, de parler au parrain, mon reine, au guide spirituel, pour être certain si. Que je ne fasse pas plus de mal que j'en ai fait. Puis nous dit la plupart des alcooliques doivent de l'argent. On a parlé tout à l'heure, je dois de l'argent à quelqu'un, je n'ai pas tout l'argent, j'attends, je dois 5 000$ à quelqu'un, je n'attends pas d'avoir le 5 000$ parce que ça n'arrivera probablement jamais. Mais je vais y offrir 100$, je vais dire aussitôt que je vais en avoir d'autres, je vais t'en ramener. C'est juste ça qu'on peut faire. Peut-être. Il y a des gens qui m'ont dit, il y a un gars qu'un coup qui a raconté que ça a pris 27 ans avant qu'il ait fini de payer le dernier gars. La dernière scène qu'il devait aux dernières personnes, ça a pris 27 ans. J'ai attendu ça, j'ai dit, tabarouette, ça se peut-tu? Mais il l'a fait, tu sais, puis c'est ça qu'il faut faire, ça prend le temps que ça prend. Tu sais, j'ai un exemple d'un gars qui était venu me voir et puis qu'il avait peur d'aller en prison. Puis ça faisait des années qu'il avait peur d'aller en prison, puis il avait encore peur d'aller en prison. Puis moi, j'ai suggéré pour prendre un avocat, puis il va te présenter aux polices avec l'avocat, expliquer tout ton cas. Puis il pensait te pogner 5 ans de prison, puis je pense qu'il y a eu 2 ans à faire dans l'affaire de chez eux, pas faire... Puis aujourd'hui, il peut être joyeux, heureux et libre. Parce que quand c'est de quoi qui prend toute ta tête, tu ne peux pas être joyeux, heureux et libre. Puis ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Les années ne font pas que ça va se passer. Mais si je prends ils disent de mettre la chaurie devant les bœufs, puis je vais aller voir qu'est-ce qu'il faut. Et c'est pour ça qu'on a des avocats, on a des comptables, on a toutes sortes de professionnels qui peuvent nous aider. Puis que les gens vont voir qu'on n'agit plus comme ça. C'est plus ça qu'on fait. Fait que ça va être plus facile pour le juge même de nous donner un sursis. Ils nous disent, nous ne devons pas craindre nos créanciers aussi loin que ça doit nous mener, car l'angoisse d'avoir à leur faire face risque de nous faire boire. Tu sais, si je dois de l'argent à quelqu'un, je ne peux pas aller voir. Chaque fois qu'il y a une rencontre, je change de bord de rue. Mais ça ne fait pas une vie joyeuse, heureuse et libre. Puis je vais aller les rencontrer. Il faut prendre un arrangement, quel que soit. Puis peut-être que je ne pourrai jamais toutes les payer. Comme le gars, j'ai compté 27 ans. Mais peut-être que je vais mourir avant, je ne le sais pas. Mais au moins, j'ai un commitment de faire, puis je vais en donner tant que je peux, à toutes les fois que je peux. Il se peut que nous ayons commis un acte criminel pour lequel nous pourrions être mis en prison si c'était connu des autorités, mais c'en était un cas, ça. T'sais? Puis j'ai dit au gars, va voir un avocat, puis on va parler aux polices pour aller voir comment est-ce qu'on va régler ça. Il a passé en cours, puis aujourd'hui, il peut être joyeux, heureux et libre. Il a fait ce qu'il fallait faire. Autrement, tu vas vivre ça toute ta vie. Puis tu as toujours peur que ça se sache, on le voit. avec les affaires de sexe. Là, on, puis il n'y a pas des affaires de sexe, mais on le voit à TV aujourd'hui, tout le monde qui se font déclarer. Il y a que ça fait 20 ans, il y a 40 ans qu'ils ont fait des choses pas correctes, puis ça finit par se déclarer. Puis ces pauvres gens-là, ils ont vu 40 ans de temps avec ça. Après que c'est déclaré, puis il y a de quoi qu'ils peuvent faire. Si surtout sont dans, ils veulent suivre le programme des 12 étapes, on peut se pardonner à nous autres-mêmes en pardonnant aux autres. Et toute la marche à suivre est là. Ça n'a pas d'importance ce qu'ils ont fait de pas correct. On peut s'en sortir. À page 89, il nous dit « Bien que nous puissions réparer nos torts d'innombrables façons, ces principes généraux peuvent nous guider en nous rappelant que nous avons décidé d'aller aussi loin qu'il le faudrait pour vivre une expérience spirituelle. Nous demandons que nous soit donnée la force et la lumière nécessaires pour faire ce qu'il faut, quelles qu'en soient les conséquences pour nous. Ça peut signifier la perte de notre emploi, de notre réputation ou même l'incarcération, mais nous sommes prêts à tout, il le faut, nous devons reculer devant rien. » Puis c'est pour ça que j'ai dit à ce gars-là, va falloir que tu y ailles, parce que tu peux pas vivre de même. Et puis si ça se sait, puis ça va se savoir éventuellement, là tu vas faire le temps qu'ils vont te donner. Et si tu vas le dire d'avance, dis, puis le voir avec une personne, puis on peut donner des lettres de référence aux personnes qu'on connaît pour dire qu'on fait plus ces choses-là. Et puis ils nous disent après ça, en général, d'autres personnes sont mêlées à notre histoire. Des fois, on a fait des coups pas corrects avec d'autres personnes. Et encore une fois, il faut parler à un avocat, parler aux gens impliqués pour être certain comment je vais me défaire de cette amende honorable-là, comment je vais me défaire de cette malédiction-là. Puis ils nous disent, nous prenons garde de ne pas jouer le rôle de martyr qui prend un geste aussi précipité qu'inconscient, sacrifierait inutilement les autres pour échapper au piège de l'alcoolisme. Hein. Je ne suis pas un martyr. Moi, là, je l'ai fait. J'étais conscient quand j'ai fait des choses que j'ai faites avec d'autres. Puis, je suis prêt à aller m'excuser, mais il va falloir que j'aie de la collaboration ou la coopération de quelqu'un d'autre. C'est cas-là. Au pire, je vais aller prendre un avocat. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me libérer de ça parce que je ne suis plus le gars que j'étais. J'ai fait des choses que je ne fais plus et que je ne ferai plus aujourd'hui. Un gars ou une fille, c'est la même chose. Avant de prendre à page 90, là, au milieu de la page, avant de prendre des mesures radicales qui pourraient engager d'autres personnes, nous nous assurons du consentement de celle-ci. Si j'ai fait des choses pas correctes avec quelqu'un, je suis mieux d'aller voir cette personne-là, puis être certain que je l'ai fait pas mettre en prison, puis moi je m'en sors à cause de ça. C'est pas ça qui est le but de tout ça. Ils disent, après que notre permission nous a été accordée, que nous avons pris conseil auprès d'autres personnes, d'avocats, comptables ou quelqu'un du rang, et que nous avons demandé l'aide de Dieu, si la mesure catégorique s'impose, alors nous ne devons pas reculer. On va aller faire tout ce que c'est j'ai à faire. Puis c'est pas toujours facile, c'est pas toujours. Mais c'est ça la vie. C'est ça. Si je veux devenir joyeux, heureux et libre, bien, c'est l'étape, la dernière étape cruciale, l'étape 4 à 9, là, que je vais aller régler mon passé. La 9e, c'est le point final sur le i. Là. Finalement, je vais être capable de devenir joyeux, heureux et libre parce que je vais m'être libéré de tout le mal que j'ai fait dans le passé. Ça va-tu être parfait? Non. Mais ça va être quelque chose que je vais être capable de vivre avec. Ils nous disent il est probable que nous ayons des problèmes de ménage. C'est sûr, ça brosse plus souvent qu'autrement, où on est gelé, mais on n'est pas l'associé qu'on devrait être ou le père ou la mère qu'on devrait être. Il y a des problèmes. Puis, quoi qu'il en soit, il est certain que boire complique les relations sexuelles avec le conjoint. C'est certain que ça soit un bord ou l'autre, ça ne marche pas. Puis nous dit, quelle que soit la situation, nous devons généralement faire quelque chose pour la corriger. Pour que j'en parle à ma conjointe, à mon conjoint, pour être certain qu'on sort tout ça, qu'on a tout ça, qu'il n'y a pas rien plus tard qui peut venir ternir ma vie. Puis si notre conjoint ne sait pas rien, qu'est-ce qu'on devra faire? Bien, il nous donne différentes actions. Peut-être que c'est mieux de ne pas en parler. Peut-être que ça dépend comment est-ce que mon conjoint ou ma conjointe est ouverte là-dedans. On va en parler. Puis ils savent aujourd'hui, avec la façon que je me tiens, que je fais aujourd'hui, que je ne fais plus les bêtises que j'ai faites dans ce temps-là. Fait que peut-être qu'il y a de la place pour l'absolution, puis peut-être pas. On va aller évaluer ça, puis voir. Dans le gros livre, il nous dit jamais exactement. Il nous dit si on peut faire ci ou on peut faire ça. Mais la décision vient tout le temps à nous autres, puis en consultation avec notre parrain, notre morraine ou notre guide spirituel. Nous considérons qu'il vaut mieux répondre que nous n'avons pas le droit de mêler une autre personne dans nos problèmes, si on a une affaire extra-conjugale, et que nous regrettons ce que nous avons fait. Et puis par la grâce de Dieu. C'est marqué ici, et que si Dieu le veut, cette situation ne se présentera pas. C'est pas si Dieu le veut. Le Dieu, il veut pas courir les femmes d'autres, ma femme, il veut pas. C'est pas si Dieu le veut, mais avec l'aide de Dieu. La question qu'on fait, puis avec l'aide de Dieu, cette situation ne se présentera pas. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu dans ma vie aujourd'hui, puis tout le temps à côté de moi, puis j'ai dit tout le temps, c'est-tu correct si je pense de même? C'est-tu correct si j'agis de même? Mais par la grâce de Dieu, en ayant Dieu dans ma vie, je ne répéterai pas ces situations-là, quelles que soient les situations. Je dis, dans certains cas, c'est la franchise la plus totale qui est de rigueur, mais encore là, ça dépend du conjoint, la conjointe, puis si j'empire les choses, ben c'est pas mieux. Mais à discuter ça avec mon parrain, ma marraine, mon guide spirituel, on va décider de quelle façon qu'on va approcher ça. Dans l'autre, page 93, il nous dit, parfois un alcoolique vous dira que la seule façon, parfois un alcoolique vous dira que la seule chose qu'il y a à faire, c'est de ne pas boire. De toute façon, ils vivaient leur pas de foyer. Mais si si les gens disent ça, c'est qu'ils n'ont rien compris encore. Ça veut dire qu'ils ne sont pas rendus à la 9e étape et ils ont besoin de reculer en arrière. Parce que si je ne vois pas le tort que j'ai fait là-dedans, je ne suis pas rendu là. Je suis mieux de retourner à ma 4e étape et aller revoir les torts que j'ai faits. Ils disent qu'il doit faire beaucoup plus encore pour réparer les torts envers sa femme ou ses parents qui a tant malmené pendant des années ou n'importe qui d'autre. En page 93, en compte de l'alcoolique, c'est comme un ouragan qui ravage la vie des autres sur son passage. Dans presque tout le monde qu'on a été impliqué dans notre vie, on nous a fait du tort. Parce qu'on ne le savait pas. On est comme un ouragan. On défait tout, puis on se pense correct. Il brise des cœurs, détruit des temps de relations, déracine des affections. Son égoïsme, son manque d'égard. Manque de considération, manque d'égard. Constant, maintient le foyer dans le tumulte. Dans notre vie, celui qui prétend qu'il suffit de ne pas boire, n'a pas réfléchi à la question, il n'est pas rendu à l'étape 9. Si je pense que je n'ai rien fait de mal ou à peu près rien, je ne suis pas rendu là. Je retourne à la 4e étape, aller lire la 4e, puis la 8e dans le 12x12, qui vont me donner bien des exemples. Il dit, oui, nous avons un long travail de reconstruction devant nous. Nous devons en prendre l'initiative. Marmonner des excuses contrites ne suffit pas. Je n'ai pas rien qu'à dire... Dire, bah, je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas juste ça. C'est plus profond que ça. Il faut que j'aille aller au fond de la chose pour que la personne comprenne que c'est plus ça que je fais. J'ai changé puis je fais plus ça. Il marque les défauts des autres peuvent être flagrants, mais il y a de bonnes chances que notre façon d'agir soit partiellement la cause des difficultés. Les autres ont des défauts, mais moi, j'ai les achats aussi. Nous mettons donc de l'ordre dans nos relations familiales. Chaque matin, au cours de notre méditation, nous demandons à Dieu de notre Créateur de nous enseigner la patience, la tolérance, la bienveillance et l'amour. J'ai besoin de ça. Puis dans la page 94, il nous dit que la vie spirituelle, ce n'est pas une théorie, il faut la vivre. Puis la vie, la spiritualité, elle a commencé direct à la deuxième partie de la première étape. Puis depuis ce temps-là, qu'on travaille avec notre être suprême, qu'on travaille puis retravaille avec notre être suprême. Puis là, ils nous disent, nous prêcherons mieux par notre façon d'agir que par nos paroles. Nous devons rappeler que 10 ou même 20 années d'alcoolisme peuvent rendre sceptique à peu près n'importe qui. Et Bill nous en parle dans l'histoire de Bill. Ça a pris un an et demi avant que les gens avec qui il travaillait, qui laissent rentrer dans l'office, ils ne voulaient même pas. Bill dit, j'arrête de boire, ça fait 6 mois. J'arrête de boire, ça fait un an. Bill, tu nous dis ça bien des fois, on ne veut rien savoir de toi, va-t'en. Puis après un an et demi que Bill a retourné à l'heure du bouchon, ils ont fini par dire, OK, Bill, viens prendre des cafés, là, on va voir comment c'est rendu avec ça. Puis il nous dit, certains torts, à page 94, peuvent être impossibles à redresser complètement. Dans ces cas, si nous sommes vraiment sincères dans nos intentions, nous ne devons pas en faire un problème. Mais encore là, moi, ma tête, elle me compte des mentries. Je ne peux pas aller là tout seul. Il faut que j'aille avec mon parrain, ma marraine, mon guide spirituel. Parce que moi, il y a bien des torts qui ne peuvent pas être redressés, puis je vais juste les mettre de côté. Puis c'est pas ça, je ne pourrais pas devenir joyeux, heureux, libre, parce que je me compte des mentries à moi-même. Je vais en parler avec mon parrain, ma marraine, mon guide spirituel. Puis je me rappelle mon parrain qui m'a trouvé d'autres façons d'autres choses à faire pour avoir le pardon de ce que j'ai fait, que je ne pouvais pas y faire directement. Toutes les personnes sont mortes pour n'importe quelle autre raison que je ne peux pas. Puis il y a d'autres façons. Je dois de l'argent à quelqu'un, bien peut-être que je vais donner de l'argent à une société à but non lucratif ou je vais l'aider dans d'autres œuvres à quelque part pour compenser pour ça. Mais chaque cas est différent. Pour rien, la moyenne du guide spirituel vont nous guider là-dedans. Ils nous disent, lorsque, par exemple, nous faut entrer en contact direct avec les personnes en code, nous écrivons une lettre. C'est une autre façon. Aujourd'hui, il y a bien d'autres façons, mais écrire une lettre, c'est une des dernières façons. Il peut arriver aussi que nous ayons une raison valable de remettre nos excuses à plus tard, mais si cela est possible, nous ne prenons pas de retard. sans tomber dans la servilité, sans tomber dans la soumission. Nous montrons grincheux, nous tâchons d'agir avec empathie, tact, bienveillance et humilité. Toutes des choses qu'on a besoin pour être capable de faire notre 9e étape à profit. À titre d'agent de Dieu, nous tenons debout, nous rampons devant personne. J'ai changé, je ne fais plus ce que je fais là, je reconnais mes torts. Qu'est-ce que d'autre tu veux de moi? Hein? J'ai fait ça, je suis vrai aujourd'hui, je le sais, puis je suis prêt à faire n'importe quelle recommandation que tu vas demander pour t'aider à oublier ce que j'ai fait de mal. Puis là, on va lire les fameuses promesses qu'il y a dans notre gros livre, qu'on lit presque tous les meetings, il lit ça. Puis je ne sais pas quel comptable qu'on a connu, qui a réussi à faire, il y a 17 promesses là-dedans, puis on en lit 12, puis on les lit toutes. Puis je vais les lire avec vous autres, je vais vous énumérer, et puis vous pouvez le prendre soin ou pas, là. Mais moi, je trouve ça décevant que le monde dit, on va lire les promesses des AA. Puis dans le gros livre, il y a au-dessus de 238 promesses. On va en lire une douzaine, puis on lui dit que c'est les promesses de A. Chaque étape a des promesses. Les promesses qu'il y a là, c'est les promesses de la 9e étape. Puis je vais vous les énumérer. Je vais mettre des numéros à côté de chaque. Puis vous allez voir à la fin qu'il n'a pas 12, il en a 17. Si au moins on pourra dire la quantité comme il faut, mais dans le gros livre, ils ne sont pas numérisés parce que Bill ne voulait pas les numériser. Il nous dit, si nous sommes sérieux et appliqués dans cette demande, dans les efforts que demande cette phase de notre évolution, nous serons étonnés des résultats, même après n'avoir connu que la moitié du chemin. C'est la première promesse. Étonnés des résultats, même après avoir couru que la moitié du chemin. La deuxième, c'est nous connaîtrons une nouvelle liberté. La troisième, c'est nous connaîtrons un nouveau bonheur. Chaque fois qu'il y a un « et », c'est deux promesses. La quatrième, c'est nous ne regretterons pas plus le passé que nous voudrons l'oublier. La cinquième, nous comprendrons le sens du mot « sérénité ». Et la sixième, nous connaîtrons la paix. Septième, si profonde qu'a été notre déchéance, nous verrons comment notre expérience peut profiter aux autres. La huitième, nous perdrons le sentiment d'être inutile. La neuvième, nous cesserons de nous apitoyer sur notre sort. La dixième, mettant nos propres intérêts de côté, nous nous intéresserons davantage à nos semblables. La onzième, nous ne serons plus tournés exclusivement vers nous-mêmes. La douzième, désormais, nous envisagerons la vie d'une façon différente. La treizième, la crainte des gens disparaîtra. La quatorzième, l'insécurité financière disparaîtra. C'est deux choses tellement différent. La crainte des gens et de l'insécurité financière vont disparaître, mais c'est deux promesses complètement différentes. La quinzième, c'est que notre intuition nous dictera notre conduite dans des situations qui auparavant nous déroutaient. Seizième, soudain, nous constaterons que Dieu fait pour nous ce que nous ne pourrions pas faire pour nous-mêmes. Puis dans la fin du prochain petit paragraphe, on va trouver la 17e, je vais vous expliquer avant. Est-ce que ce sont là des promesses extravagantes? On pense-tu que c'est pas vrai, que c'est pas correct, que c'est pas possible, ces étapes-là, ces promesses-là? On ne croit pas que c'est extravagant. Ces promesses-là, ils se réalisent parmi nous, parfois rapidement, parfois lentement. Pourquoi des fois c'est rapidement, des fois c'est lentement? Bien, si je suis encore dans ma 9e étape, ça fait 10 ans que je suis en haut, les promesses, ils vont arriver tranquillement. Puis si j'ai fait mes 9 premières étapes, dans les 9 premiers mois que je suis là, mais les promesses, ils vont arriver plus rapidement. C'est sûr que les promesses arrivent parfois rapidement, parfois lentement. C'est pas parce qu'il y a qui arrive pas vite, l'autre n'arrive pas vite. C'est parce que moi, je ne fais pas mes amendes honorables comme à la vitesse que je devrais aller faire. Puis finalement, ils nous disent, mais ces promesses-là, ils se réalisent, matérialisent toujours si nous travaillons dans ce sens. En plus d'une fois, les 16 premières promesses, ils nous disent, même si tu ne le fais pas vite, là, même que tu le fasses, ça va se réaliser pareil. Fait qu'ils nous font une promesse que ces promesses-là vont arriver si je continue à faire ce que je suis posé de faire. Cette réflexion nous amène à la 10e étape. Ça va compléter notre 9e étape pour asseoir. Puis on va finir avec la prière de la sérénité. Puis après ça, bien, si vous levez vos mains, on pourra répondre à ces questions-là du mieux que je peux. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Je vous remercie tout le monde d'être là encore une fois. Puis comme je dis tout le temps, là, si vous avez aimé ça, emmenez-en un autre. Puis si vous n'avez pas aimé ça, bien, parlez-en pas.